Alright. Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Roger Fringant.
J'aime pas comment vous ricanez. espèce de. Sans oublier.
Ça vous inquiète,
Tom.
Ah voilà, Tom, déjà, il avait oublié de mettre le micro devant son nez. Ça commence bien. Légèrement en retard, vous savez ce que c'est. Il fait froid, faut qu'on sorte de notre grotte. 35e année que nous sommes là quand même pour vous souhaiter une.
Une bonne année.
Alors.
On commence par quoi ?
Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'on leur souhaite encore, à toutes nos auditrices et auditeurs, encore une bonne année, sachant que ça fait 35 fois qu'on le fait, on ne peut pas dire que les choses soient véritablement améliorées.
Vous n'avez pas tort.
Hein ? Alors, est-ce que c'est de notre faute ? Ça, on ne va pas dire que c'est de notre faute. On vous aura prévenu, ça c'est vrai. Ouais, ça, on peut le dire, on vous l'avait bien dit.
Et on ne nous aura pas prévenu. Entendu, ça c'est vrai aussi.
Ça c'est vrai aussi. En tout cas, essayez de faire au mieux pour 2024, essayez de survivre à cette nouvelle année. Entre Chouki, la poupée tragique de Corée du Nord, qui arrête pas, je vais l'anéantir, la Corée du Sud, et puis ils me font chier, je vais tout faire péter. Je ne sais pas, est-ce que ces chocolats de Noël étaient avariés ? Est-ce que ces huîtres étaient contaminées par le... Comment on appelle ça ? Le truc avec le caca, le coléiforme fécal, voilà, le coléiforme fécal dans ces huîtres qui ont gâché les fêtes
on peut parler
de nombre de nos éditrices et auditeurs.
On peut parler de l'Équateur aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ou les gangs, enfin c'est la mafia pour simplifier,
vous savez, en train de se battre avec le gouvernement. Je vais vous avouer un truc très, très privé qu'il regarde que moi et ma chérie, mais ça fait une semaine qu'elle se cogne toute la série d'Arte en review sur les mafias de la cocaïne. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux.
C'est brutal, hein.
Ah ben, je vais vous dire. Ouais. Vous savez que j'ai même découvert qu'il existait des gangs. Alors les gangs, ils étaient même pas sur le trafic. Mais en fait, ils savent que toi, tu trafiques, que Tom, il trafique. Je vais vous voir. Moi, je fais partie de ce gang-là. Eh ben, tu vois, il va falloir que sur chaque kilo de coco, tu me donnes tant. Je dis, et toi, tu me dis, sinon, ben, sinon, je te bute. Et donc, c'est un espèce de une violence paroxystique, on va dire, et ma chérie, elle me dit, je sais pas pourquoi, elle me dit, il faut que tu regardes comment que tous ces produits-là sont fabriqués.
Bah, c'est marrant parce que j'ai vu un documentaire de ce style-là et qu'on voit du basique, c'est-à-dire le mec récolte sa coca. Je sais qu'il y a un des tics qui a fait.
Alors, on vous rappelle même pas comment c'est fabriqué.
Bah, c'est ce que je voulais dire.
On veut pas le savoir.
Et le producteur de coca, il vous avez vu les belles maisons. Des Mercedes ici, il n'y a pas. Et après, on a vu comment c'est fabriqué. Alors là, putain, oh là 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 là, c'est pas glop, hein, c'est pas de la coca qu'on met à mariner dans un alcool ou autre, c'est un petit peu plus rock'n'roll.
Avant qu'on ait de la cocaïne Max Avelar en vente libre, comme on dirait dans les pharmacies.
Oh, jamais, ça arrivera peut-être un jour.
Mais je crois qu'on sera mort. Bonne année quand même.
Oui, et surtout, bonne santé. Voilà.
Est-ce qu'on présente l'émission ? Je serais assez d'avis de présenter l'émission quand même. C'est bah, 20h14.
Allez, on se met un petit 10%
okay.
Temps,
okay.
Et après,
okay.
Je présenterai l'émission. Eh, cool. Oh, bonne santé.
with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Voilà un petit morceau qui nous réveille, ça c'est programmation
bien,
Atom.
Ouais, bien, bien, ouais. Bien, bien. Je suis surpris, je croyais qu'il allait nous mettre un truc, je ne sais pas quoi.
Du jazz.
Un peu mou, on vous a expliqué un milliard de fois, quand vous êtes le premier, il faut à tout prix que vous mettiez un truc speed.
J'ai fait un effort.
Vous commencez bien l'année,
moi. Voilà, oui, moi je dis bien, moi je dis super bien.
On sent que j'ai une influence positive sur vous, ça c'est pas plus mal. Allez, bon, bah, vous écoutez les Grignoux, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous pouvez, enfin c'est tous les mercredis, normalement 20h, mais allez, on va dire soir 20h08, c'est les choses qui arrivent, jusqu'à 21h30 précise, rediffusion le dimanche à 15h, si je dis pas de bêtises, 16h30, et sinon, vous tapez les Grid News sans X, sans S, et vous tomberez sur notre blog. Et ça va mieux. Il fallait que ça sorte, il fallait que ça...
Il fallait que vous le disiez, c'est fait. Alors maintenant, on présente l'émission.
Ouais, ce soir, on va recevoir une personne, même Bourguin, qui représente Wake Up Café.
Qu'est-ce que c'est que ça, le Wake Up
justement,
Café?
Justement, j'ai vu ça dans un documentaire ou un reportage, je m'en souviens plus très bien, il y a quelques semaines. Et c'est une asso, en fait, qui se mobilise pour intégrer les détenus, mais pas forcément au niveau assistante sociale pure, au niveau de tout ce qui peut aider quelqu'un qui sort, je sais pas, un an, deux.
Alors,
ans,
les détenus ou les ex... J'avais cru. Les ex-détenus,
les
en fait.
Les ex-détenus, ouais.
Voilà.
Vous êtes incarcéré, j'ai n'importe quoi, pendant 5 ans. Vous n'avez plus d'appui familial ni quoi que ce soit. Et puis, on vous met dehors. Ah, bah, qu'est-ce que vous faites? C'est pas forcément facile. Et remplir des papiers administratifs et ce genre de choses, même moi, j'y arrive pas. Alors, j'imagine qu'on n'a pas forcément
donc,
connaissance.
Donc, ouais, c'est le côté. Puis, ouais, c'est très intéressant. On a comment, du coup, quelqu'un de Wake Up Café qu'on va voir par téléphone, parce que c'est de Nantes, là, c'est l'antenne nantaise, c'est une association nationale, hein, il y a plusieurs
à
antennes.
À la base, ouais, à la base. Bah, elle nous dira tout ça tout à l'heure. Mais en attendant, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, nope. Non ? On se met un disque et on embraye sur votre rubrique ou cool, cool ?
Un petit disque et on embraye sur la rubrique, cool. Puisque Jean-Loup a décidé d'être près de comment Kingstone. Il veut qu'on l'appelle Kingstone, il a décidé qu'il la laisse pousser les cheveux en 2024. On va voir ce que ça va donner.
Je vous sens énervé, hein. Vous inquiétez pas, allez, un petit disque.
C'est moi qui suis énervé, vous couille.
The way I walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I go hog wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby. It feels so good. I feel as though I wanna be, and I don't know if I should. Do you, 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 do you, 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 yep, yep, yep. Do you, 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 do you, 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 ah. It got to suit my style. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon, and night. Do you, 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 ah. Do you, 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 ah. Yep, yep, yep. Do you,
c'est la rubrique à qui ? Bon Dieu, c'est la rubrique à qui ? C'est la rubrique à qui, bon Dieu ? C'est la rubrique à qui, bon Dieu de bordel ?
Ah, oh, mais c'est la rubrique à Roger !
À vous, Roger !
Eh bien oui ! Eh bien oui !
Ouais, c'est vrai,
est-ce
semaines...
que c'est un article, je suis obligé de le brailler, parce que c'est un article qui parle de l'étonnante incidence des prothèses auditives sur la longévité. C'est une bonne nouvelle en ce qui nous concerne, c'est-à-dire que tous les sourds dont je fais partie, eh bien, vivent plus longtemps lorsqu'on leur met des prothèses auditives. Alors d'ailleurs, je vais les remettre, comme ça, ça va me permettre de parler à un niveau plus correct. Voilà, ouais. Voilà.
Bah, vous savez pourquoi ? Quand le médecin dit « Vous êtes mort », ils n'entendent pas. Ils ont l'impression qu'ils sont encore vivants.
Alors, ça, c'est une théorie. Simple. C'est une théorie qui est intéressante. En fait, moi, je pensais tout simplement, bêtement, que le fait des... Parce que c'est une étude tout à fait sérieuse qui annonce que, sur 13 années... Attendez, ils ont fait ça sur des milliers d'Américains qui ont participé à une enquête nationale sur la santé et la nutrition. À partir de leur examen auditif et de questionnaires sur l'utilisation de prothèses, les chercheurs ont identifié que moins de 13% des malentendants portent régulièrement un appareil auditif. Alors ça, par contre, c'est la mauvaise nouvelle. Ce taux monte à 17% en France. Pourquoi ? Parce que les prothèses auditives sont parmi les prothèses les plus mal remboursées. Ça, c'est l'histoire la moins rigolote
mais je croyais qu'il y avait,
mon article.
Vous qui êtes un spécialiste, je ne le suis pas, mais qu'il y avait des prothèses, on va dire, basiques, remboursées à 100%
c'est
par
les mêmes lunettes.
Non, mais vous parlez de
prothèses mais c'est pareil que pour les lunettes sécu.
C'est-à-dire, elles cassent.
Ouais, et puis c'est surtout que pour les prothèses, il n'y a pas que. Il y a des piles à racheter sans arrêt. Ça a un coût. C'est-à-dire que les dents, on vous refait la dent, c'est hyper cher. Par exemple, un implant, c'est hyper cher.
Ça coûte de la peau des couilles, je peux vous le dire.
La peau des dents, on va dire.
Ouais, la peau des dents.
Mais en fait, comment, une fois que c'est fait, vous voyez ce que je veux dire? Tandis que les piles, il y a l'entretien et l'appareil finit par rendre l'âme au bout de 4-5 ans, obsolescence programmée oblige. Et moi, je pensais bêtement que nous, les sourds, nous mourions moins vite en tout cas, si nous portions des prothèses. Pourquoi ? Circulation, hop, on entend la bagnole, on entend le vélo qui passe, etc. Et ça vous évite de finir comme un papillon sur un pare-brise.
Et ça évite aussi que vos potes s'essoufflent à vous raconter.
Et qu'ils hurlent parce que vous n'entendez rien.
Que je te le répète, mon Dieu.
Mais oui. Et là, comment, il y a deux choses qui sont assez rigolotes parce que comment, c'est ça, c'est, cette histoire, mais ça va très loin parce que la différence s'élèverait à presque de 25% dans le risque de mortalité entre les utilisateurs réguliers d'aide auditive et ceux qui n'en portent jamais. Autrement dit, vous allez me supporter longtemps. C'était la bonne nouvelle de l'année. J'avais envie de... Et alors, qu'est-ce qui arrive justement, et on va finir là-dessus, pour ceux qui ne portent pas des prothèses auditives? Est-ce qu'ils finissent, comme je le pensais bêtement, sur les pare-brises de bagnole? Eh ben non, ils deviennent fous. L'équipe de Janet Choi s'est basée sur d'autres études pour émettre des hypothèses. Et d'après ses conclusions, les améliorations de la santé mentale et de la cognition associées à une meilleure audition peuvent favoriser une bonne santé globale et donc accroître la durée de vie, alors que les conséquences néfastes telles que l'isolement social, la dépression et la démence, comment attendent les sourds qui ne portent pas d'appareil ? Amis sourds.
En langage clair, ça veut dire quoi en fait?
Ça veut dire c'est-à-dire que tu t'extrais un peu du monde social, t'entends pas.
Ah, on se coupe.
Ouais, voilà. Ouais.
Mais pourquoi on porte pas ces appareils?
Parce que c'est cher.
C'est l'histoire de pognon, tout simplement.
Ouais, c'est l'histoire de pognon. Et c'est ça qui est pas drôle du tout. Et je vous dis, en France, on est à 17%, selon l'assurance maladie. Seuls 17% des personnes qui devraient porter des appareils en portent aujourd'hui en France.
C'est peut-être pour pas entendre les conneries que leur entourage raconte.
Ah, ouais. Ouais, mais moment, c'est pour ça soulage, devenir fou. Et je vous dis, avec l'avènement des voitures électriques, eh bien, comment...
Ça, c'est vrai que quand ils mettent pas le bruit moteur, faut faire gaffe. Hein. Faut avoir l'œil.
Malheur aux sourds. Tiens, Olivier Dussault. Olivier Dussault, je sais pas pourquoi, il y a un journaliste qui lui a posé une question en sachant qu'est-ce qu'il restera dans l'histoire du double quinquennat Macron. Et Dussault l'a joué modeste en disant il est beaucoup trop tôt pour parler de la trace que laissera Emmanuel Macron dans l'histoire. Sauf que on peut quand même, on va dire ce qu'il va avoir laissé Macron. La hausse de la mortalité infantile, le nombre de SDF multiplié par 2, la hausse de la pauvreté, violence policière généralisée, record de déficit commercial, pire ratio d'accidents du travail d'Europe, émigration des jeunes diplômés, hôpital public à l'agonie, et j'en passe. Mais c'est pas grave, on vient de changer de Premier ministre. Et vous savez qu'en France, la politique est ce qu'elle est, mais il y a au moins un truc sur lequel les politiciens français, on les emmerde pas, je trouve ça très bien, c'est sur leur orientation sexuelle. Sauf comme quand il y a un espèce de sénateur barré qui essaye d'allumer une députée avec du je sais plus quel produit. Eh bien, en France, la vie sexuelle des politiques ne tient peu de place, au point où, effectivement, nous venons d'avoir un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, qui, c'est tout à son honneur, n'a jamais fait mystère de son homosexualité. Et bien justement, monsieur Gabriel Attal, ça serait l'honneur d'une grande démocratie de reconnaître ses erreurs à propos des Français condamnés pour homosexualité entre 1942 et 1982, qui n'ont toujours pas été réhabilités. Et c'est vrai que ça serait l'occasion ou jamais mais effectivement d'avoir un politique fort. Je termine mon histoire. Il faut savoir qu'ils sont quand même 10 000 à avoir été... Alors j'accuse pas Gabriel Attal de quoi que ce soit. Jean-Louis vient d'arriver.
Il y a deux jours, hein, je suis
désolé. Non, mais je précise, c'est une demande, il vient d'arriver.
Je sais bien que
c'est... Il vient d'arriver,
Roger,
donc on fait des demandes, c'est normal.
Allez-y, Roger.
C'est une demande, je l'accuse de rien. Et il n'y est pour rien parce qu'il n'était pas né, je vous rappelle qu'il n'a que 34 ans, c'est le plus jeune Premier ministre. Il n'était pas né lorsque, entre 1942 et 1982, eh bien, ils sont 10 000 à avoir été condamnés pour homosexualité en France. Très peu peu sont toujours en vie, malheureusement. Et une proposition de loi est examinée au Sénat, a été examinée au Sénat pour leur apporter réparation. Et il faut quand même savoir que, à l'époque, entre 42 et 82, bien que l'homosexualité soit légale en France depuis 1795, il faut le savoir, c'était une originalité, mais...
Ils sont revenus dessus, hein, parce que...
Non, sous Pétain. On est revenus sous Pétain.
Et ça a traîné, je crois que c'est au début des années 70.
Ouais. Hein, et 42, on est en pleine loi de Pétain, ce qui a permis de réactiver un vieux fonds...
c'était un peu...
Mais ce qui est délirant, c'est que des réglementations de Vichy sont restées plus ou moins en vigueur, ce qui faisait que les flics, quand ils se faisaient chier, ils descendaient dans une boîte de nuit gay, pouf pouf, ils ramassaient tout le monde. Et le problème, comme le témoigne cet homme là qui demande réparation, il l'attend tout simplement parce que selon lui, il fallait que les PD restent dans les placards, morts ou homosexuels, sortaient la nuit, rasaient les murs. Il a été arrêté à 77 en Paris alors qu'il prenait du bon temps dans l'arrière-salle d'un club privé homosexuel, le Manhattan. On était entre nous, bien sûr, majeurs. Et d'un seul coup, la lumière s'éclaire, j'entends police, des agents civils s'est infiltré au cœur des ébats et nous sommes embarqués dans des paniers à salade, menottés. Ça, c'est mon titre de gloire. Michel Chomora a été condamné en 78 à une amende de quelques centaines de francs pour outrage à la public à la pudeur. Et il rappelle en quoi est-ce qu'il peut y avoir un outrage public à la pudeur dans un espace privé. Sa condamnation a été confirmée en appel et en cassation. Et selon lui, il s'est vraiment senti humilié et méprisé. D'autant qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, lorsque vous étiez arrêté, eh bien, on mettait votre nom dans West France, par exemple, dans le journal local, en disant « Ah ah ah, Jean-Loup Grossou, au, comment dirais-je, au gay club, machin, palace, il s'est fait choper, pirouli poula, vous perdiez votre emploi, vous perdiez, vous étiez bon, vous étiez tricard, quoi. »
Mais bon, j'ai l'impression que vous découvrez, j'ironise un peu.
Non, mais je ne découvre pas, je le rappelle, parce que c'est une conjonction d'articles, en fait. Cet article, je l'avais déjà mis de côté, si vous voulez, et le fait de voir, justement, un nouveau Premier ministre. Et c'est là où, justement, je trouve que c'est très très bien que ce monsieur, Gabriel Attal, ait pu effectivement l'annoncer haut et fort, comme d'autres ministres du gouvernement d'ailleurs, et sans que ça pose le moindre problème. Et justement, puisque le voilà maintenant titulaire de plein de pouvoirs, eh bien ça serait bien qu'il s'occupe de ce projet de loi, de cette proposition de loi, pardon, pour réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité, point.
Je vais appeler Gabi demain, je vous promets. Et là, si tu pouvais écouter l'émission, ce serait chouette.
On s'écoute un petit mix.
On sait jamais.
Vous avez parce que le racisme, il est partout. Il n'y a pas que contre les Noirs. Ouais, il y a aussi contre les homos aussi.
Et on peut faire des lois pour ou contre, pardon, c'est ce que je voulais dire. Après, c'est les mentalités qu'il faut changer. Et ça, c'est très, très long et très compliqué. Un petit disque. C'est sûrement la programmation à Jean-Loup. Yes, ouais. C'est parti. Bon, petit garage.
Jimmy's mother is worried about a precious boy. The other lads in the playground he chooses to avoid. They're always fighting, it ain't exciting or so inviting to him. They're rough and dirty and goes up hurting. He must prefer to be prim. He's always been a bit different from the day he was born. He wasn't built like his brothers. He made his parents forlorn. Jim didn't fit in. He started kneeling and quietly sitting around. Some girls were friendly, approached him gently, and accidentally found he wants to hang with the girls. He wants to hang with the girls. He doesn't care what they say. He's doing things his own way. Jenny's father is worried. For dinner instead. She won't wear ruffles. She gets in scuffles and rips those ruffles to shreds. 'Cause he hangs with the boys. He likes to hang with the boys. She's out here making some noise. We'll be right back.
Allez Roger, je sais que vous n'êtes pas très macroniste, hein, si j'ai bien compris vos différentes rubriques.
En ce moment, tiens, il y a un truc qui me saoule aussi. Vous avez sans doute remarqué depuis quelques années le développement des travailleurs sur les plateformes, à savoir les pauvres esclaves de livreurs, Deliveroo. Et ça me saoule de voir tous ces pauvres blacks là, comment dirais-je, parce que c'est quand même bien bronzé, hein, quand même, les gens qui sont sur leur petit vélo là.
Bah, il faut le faire.
Et il faut le faire. Et comment normalement, une législation européenne prévoyait de requalifier comme salariés de nombreuses personnes travaillant pour des applications comme Uber ou Deliveroo, aujourd'hui considérées comme des indépendants.
Ça a été fait, ça.
Mais justement, non. Écoutez, plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France, ont rejeté vendredi 22 décembre la législation visant à renforcer les droits des travailleurs des plateformes numériques négociée avec le Parlement européen, 9 jours seulement après l'annonce d'un accord présenté comme une grande avancée sociale. La législation prévoyait de requalifier comme salariés de nombreuses personnes travaillant pour des applications comme Uber ou Deliveroo, aujourd'hui considérées comme des indépendants. La présidence espagnole, du Conseil de l'UE, qui coordonne les débats, a annoncé que la majorité nécessaire n'était pas atteignable à l'issue d'une réunion des ambassadeurs des États membres de Bruxelles. Voilà. Alors du coup, pour s'expliquer sur cette position très progressiste, le ministre du Travail français, Olivier Dussopt, avait expliqué que Paris jugeait le compromis trop éloigné de la position adoptée par le Conseil en juin, notamment sur la question des requalifications. En clair, ces esclaves devenaient des vrais travailleurs. Ça gêne apparemment Dussopt, qui aurait été trop automatique, en quoi ça le dérange, et aurait provoqué trop de contentieux. Ça va faire dégueuler les tribunaux, vous voyez. Donc, on va quand même leur épargner le jugement. Ça aurait encombré les jugements. Quand vous allez vers une directive qui permettrait des requalifications massives, y compris de travailleurs indépendants qui tiennent à leur statut d'indépendant, nous ne pouvons pas la soutenir. Bien sûr qu'ils rêvent toujours d'être patron. Comme dit Dussopt, quand tout le monde sera patron, plus personne ne le sera. En clair, on sera tous arnaqués.
Juste un petit mot. Hein.
Comment vous allez défendre ça?
Je ne défends pas, c'est une des dérives, parce que je pense que dans l'état d'esprit, vous savez ce qu'on appelle, c'est les micro-entreprises, hein, c'est ça là. Où moi, si je veux, demain, je suis patron. Après, qu'est-ce que je fais? Mais je suis officiellement, j'ai le nom de ma société, patati, patata. Et il y a eu beaucoup de propriétaires qui ont obligé au début certains de leurs salariés à prendre le micro-entrepreneur. Voilà, je cherchais le terme, à prendre le statut de micro-entrepreneur. Tu verras. Tu gagneras un petit peu plus et par contre pas de congés payés quand je suis malade, que dalle, enfin ce genre de choses. Et ça, c'est le genre de société, je suis pute, attention, hein, qui demande aux gens qui ont des papiers, alors après il y a toute une histoire de magouille entre eux aussi.
Non mais là on parle pas de
je
ça.
Je termine, qu'ils aient le statut de micro-entrepreneur pour pouvoir postuler à Uber ou Deliveroo.
Non mais pourquoi vous dites ça?
C'est ce que reproche le...
Ce que dit, Dussopt ne veut pas de ça, parce qu'effectivement, ça serait une avancée sociale, et il ne me semble pas quand même que le gouvernement français soit en faveur des avancées sociales. Pour une fois que l'Union européenne, loin des lobbies, prenait une décision en faveur de ces pauvres malheureux qui sont en vélo, la France vote contre, c'est tout ce que je voulais dire.
Est-ce que vous voulez que j'en parle à Gabi demain?
Ouais, j'appelle,
j'ai deux choses.
Allez, tiens, une trentaine de départements ont annoncé leur intention de ne pas appliquer la préférence nationale pour l'allocation d'autonomie. Bah oui, parce que depuis le vote de la nouvelle loi immigration, pour laquelle ont voté quand même tous les élus du Front National, eh bien, effectivement, l'APA ne sera versée aux étrangers en situation régulière qu'après un délai de 5 ans de présence sur le territoire pour ceux qui ne travaillent pas et de 30 mois pour ceux qui ont un emploi. Contrairement aux aides personnalisées au logement qui sont versées par l'État, les APA destinées aux personnes âgées le sont par les départements, ce qui permet aux départements de dire, eh ben, si l'État prend des mesures totalement délirantes, on n'est pas forcé d'y souscrire. Et d'autant plus que, et je voulais en finir pour cette loi immigration, ce qu'a rappelé quand même comment le père Fabius, qui est quand même le président du Conseil constitutionnel, qui est quand même pas un abruti, il dit ça serait bien que le Conseil constitutionnel ne soit pas considéré comme la poubelle des lois comment voulues par opportunisme par le gouvernement, sachant qu'elles sont totalement inconstitutionnelles. Et c'est au législateur de proposer des lois qui sont constitutionnelles, c'est pas au Conseil de faire les poubelles des lois voulues par cette espèce de majorité désormais évidente entre Renaissance et le Front National. Et on va terminer par une chose plus drôle. Qu'est-ce qu'est le Dump January, l'alternative plus souple au Dry January qui permet quelques verres?
à rappeler ce que c'est, que c'est pour les gens qui comprennent.
Alors, le Dry January, déjà, j'aime pas.
C'est pas de l'alcool, c'est ça.
Mais non, Dry January, c'est un truc de roast beef à la con. C'est une nana, elle avait trop picolé. Elle a dit un jour, je vais arrêter de picoler pendant un mois et ça va beaucoup mieux. Depuis, elle fait chier tout le monde. Il se trouve qu'il devait y avoir un creux dans l'actualité. Tout son délire a été repris par tout le monde.
C'est à la mode.
Et voilà qu'on nous emmerde. Et heureusement, d'ailleurs, le gouvernement français a décidé de ne pas relayer les pubs en faveur du Dry January, ce qui fait quand même grincer des dents en disant qu'on a quand même l'impression d'avoir un gouvernement aux ordres des lobbies viticoles. Revenons-en au Dumb January. Le Dumb January, c'est ce que l'on fait tout au long de l'année. C'est-à-dire que pas un verre de plus et pas plus que le coup des amis avant de prendre le volant.
Vous voulez vivre vieux et vous faire chier, quoi.
Voilà. Et c'est ce qu'a bien compris le gouvernement, puisque il est accusé, à juste titre, d'avoir étouffé toutes les campagnes anti-alcool. Il y avait une campagne anti-alcoolique et le ministère de la Santé a dit « Ah non, on va pas la refaire parce que il y en a déjà eu et puis ça stigmatise un peu trop de monde. » Ce qu'il oubliait surtout de dire, c'est qu'il y avait un oukase qui venait directement de l'Élysée en disant « Bah non, on fait pas chier les viticulteurs, et puis c'est tout. » On a la chance, monsieur, d'avoir un président qui boit midi et soir. Il le dit, d'ailleurs, il le dit. Avant, Sarko, il buvait pas. C'est pour ça que Sarko, il a pas pu se reproduire. Il faut boire dans le métier.
Il s'est reproduit un peu. Ah oui, c'est-à-dire être réélu, là.
Macron, il boit, il a été réélu. J'ai pas dit qu'il était alcoolique, j'ai dit qu'il a dit qu'il buvait de midi et le soir.
C'est comme Hitler, hein, qui était...
Hitler était... Il buvait pas d'alcool.
Il buvait pas d'alcool. Rien.
Et c'était un putain de végétarien.
En plus. Et il fumait pas non plus de cigarette, rien.
C'était quelqu'un de sain.
Ça explique ses décisions toutes pourries. Il est toujours bourré, en fait, Macron.
Il paraît qu'il avait une super mauvaise haleine. Parce qu'il avait plus de dents.
Et ça, parce que c'était un putain de végétarien qui mangeait la même chose. Et il paraît que c'est pas bon. Les végans, ils ont toujours un bonbon à la menthe, mais vous savez, avec une... Enfin, ça va, la menthe est naturelle, tout est naturel là-dedans, parce que ça a une putain d'haleine, le végan. Méfiez-vous. Un petit disque.
Ça veut bien démarrer. Ça veut pas démarrer.
Allez, Tom, pas de panique.
C'est le disque à Jean-Loup ?
Non, c'est à moi, mais il veut pas démarrer.
C'est quoi, vous nous avez
dit ? C'est un vinyle.
Ah, ça y est, c'est parti, ça y est. Je voulais pas démarrer.
ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends,
de dorénavant, toutes les connaissances disponibles sont à votre disposition. En effet, les Grignoux sont spécialistes de tout. Diplômé des arts et des lettres, docteur en sciences particulières et générales, prix Nobel 90 de mathématiques, maître en histoire géo, spécialiste de l'univers, licencié S paranormal, voici les Grignoux dans... Et du con.
Allô
Allô. Ah, on n'a rien, mon bon Tom. Allô, est-ce que vous entendez?
Bonjour, bonjour Jean-Loup.
Ah, voilà.
On vous entend très bien. Non,
on vous entend mieux.
Mieux, on va dire ça comme ça. Mais Tom, notre technicien magique, va tout normalement réparer.
Ça y est, ça marche.
Eh ben, c'est donc parfait. Nous sommes en compagnie de qui, Jean-Loup?
Alors, nous sommes en compagnie de Madame Bourguin, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai contactée. J'ai vu il y a quelques semaines, quelques temps, un documentaire ou un reportage, je ne m'en souviens plus très bien, où il parlait de Wake Up Café. C'était à Marseille, si je dis pas de bêtises, et ça m'a un petit peu interloqué, et j'ai tapé comme ça Wake Up Café sur internet, et je suis tombé sur l'association, parce que c'est bien une association, et j'ai vu en fait qu'il y avait, bon, c'était centralisé, ça avait fait des petits dans le bon sens du terme, en Bretagne et ailleurs, et c'est pour ça que j'ai dit, je vais appeler Madame Bourguin, alors que je savais pas comment elle s'appelait, mais je l'ai eu quand même, pour qu'elle nous parle un petit peu.
C'est donc une association qui vise à la réinsertion des personnes qui sortent de prison.
Exactement.
Voilà. Et c'est ça qui est formidable dans votre démarche, c'est que Jean-Louis et moi, assez naïvement ou par pure ignorance, et sûrement ignorance crasse d'ailleurs, pensions qu'il y avait peut-être un espèce d'encadrement post-carcéral qui viserait par le biais d'assistantes sociales ou autres pour aider les personnes ex-détenues à la réinsertion. Et en fait, c'est pas vraiment le cas.
Si, sur le principe, il y a un service spécialisé qui s'appelle le service pénitentiaire d'insertion et probation, qu'on surnomme le SPIP, dont c'est le travail, qui s'occupe donc de l'insertion et de la probation, et qui s'occupe à la fois d'accompagner des personnes en détention, de penser l'après, et à l'extérieur, aussi de les suivre quand ils sont encore sous écroute, c'est-à-dire en aménagement de peine.
D'accord. Et cet assaut, donc, elle est née du constat réalisé par Rendons à César ce qui appartient à César. En tout cas, en l'occurrence, c'est Clotilde Gilbert, c'est ça ?
Exactement. Clotilde Gilbert, elle a passé 7 ans en détention en tant qu'aumônier de prison. Et en fait, la spécificité des aumôniers de prison, c'est qu'ils ont les clés des cellules. Et du coup, elle a pu vraiment rencontrer les personnes en cœur à cœur et prendre le temps de les découvrir et de découvrir plus ce que c'était que la réalité carcérale. Et la réalité carcérale, c'est 22 heures sur 24 sur une couchette à attendre que le temps passe dans une cellule de 9 mètres carrés où on est deux ou trois.
D'autant que les prisons françaises n'ont jamais été aussi remplies. Un article que j'ai piqué aujourd'hui, la densité carcérale globale s'établit à 123,3% et atteint ou dépasse même les 200% dans 11 établissements aujourd'hui.
Tout à fait. Et en fait, il y a les établissements qu'on appelle les maisons d'arrêt, qui sont les établissements qui accueillent des personnes qui sont prévenues, donc qui ne sont pas encore jugées, et des personnes qui sont condamnées à des peines de moins de 2 ans. Et il n'y a pas de numerus clausus dans ces établissements. Et donc, c'est dans ces établissements, qui sont majoritaires en France, qu'il y a une surpopulation carcérale très forte. Et dans la délégation de Bretagne, il y a entre autres une surpopulation carcérale extrêmement forte.
Alors, désolé, je vais vous couper, mais vous inquiétez pas, je vous ai expliqué quand je vous ai eu, en préparant l'émission, qu'on a le temps. J'aimerais bien revenir, en fait, sur l'aspect historique. Donc, 2014, si je dis pas de bêtises, une femme qui était dans un établissement pénitentiaire a eu cette idée-là. Mais comment elle est née, en fait, cette idée-là, de manière toute simple?
Si on posait la question à Clotilde, elle vous dirait le Wake Up Café tel que ça existe aujourd'hui, je ne l'avais pas du tout imaginé dans mon esprit à ce moment-là.
Parce que ça commence modestement à l'origine.
Mais oui, ça commence d'un constat très simple. En ayant passé un certain nombre de temps en détention, elle a commencé à créer des liens avec des personnes avec lesquelles elle s'est rendue compte qu'il y avait une réelle envie de s'en sortir, mais qu'il avait besoin d'un coup de pouce. Et donc, c'était le premier waker, Stéphane, qui lui a dit, moi, pour sortir de détention, j'ai besoin d'un emploi. Est-ce que tu peux m'aider? Et en fait, dans son réseau personnel à Boulogne, elle a demandé à des chefs d'entreprise si certains étaient intéressés pour l'embaucher. Et un chef d'entreprise lui a dit, OK, je te fais confiance. Moi, je veux bien l'embaucher. Et en fait, le point de départ de Wake Up Café, c'est la rencontre entre un sortant de prison et une entreprise. À travers le lien qui est Clotilde Gilbert.
C'est né du hasard, en fait, complètement. Et c'est là où elle s'est dit, finalement, pourquoi on ne développerait pas cette idée sous manière associative, ou ça a été plus lent à monter?
Non, en fait, je ne peux pas dire que c'est du hasard. Je pense que ça répond à un réel besoin, qui est que les personnes qui sortent de détention ont des difficultés énormes à relever, dont l'emploi, pas que l'emploi, mais dont l'emploi, et que aujourd'hui, les entreprises ont des besoins en recrutement, que ces personnes ont besoin de travailler et que il y a un lien à faire. Et donc quand Wake Up Café a été créé, c'était du constat que les chefs d'entreprise qui ont commencé à embaucher, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que quand il y a un détenu qui a été embauché grâce à Clotilde, de bouche à oreille en étant chaud, ça se fait vite. Donc il y en a plusieurs qui sont retournés par ceci en disant hey, papa, j'ai vu que tu avais fait embaucher, c'est pas juste que moi je peux aussi avoir un boulot, est-ce que tu peux m'aider? Et donc en fait il y a plusieurs gars en détention qui lui ont demandé de l'aide. Et Clotilde, en fait, a commencé à faire embaucher un certain nombre de détenus, enfin d'ex-détenus. Et le problème, c'est que les chefs d'entreprise sont retournés voir Clotilde au bout d'un certain temps, en disant « Ah, Clotilde, ils sont super, ces gars. Mmh. » Ils sont motivés. Mais en fait, ils ne sont pas du tout prêts à intégrer l'entreprise. Parce que, finalement, la détention a déstructuré et a déshumanisé la personne. Et donc, elle n'est plus en capacité, immédiatement à la sortie de prison, d'intégrer le monde de l'entreprise. Parce qu'il y a des horaires à respecter, parce qu'il faut retrouver un lien social, parce qu'il faut se remettre dans un état d'esprit de travail, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais travaillé. Et de ce constat, les chefs d'entreprise ont dit à Clotilde, ce serait bien que tu montes une structure, une sorte de sas entre la détention et l'intégration dans l'entreprise, pour leur permettre à la fois de se poser et en même temps d'apprendre et d'acquérir à nouveau tous les critères qui vont leur permettre d'avoir une réinsertion durable.
Alors non, parce que en fait, le traumatisme de la prison est tel qu'ils ne peuvent pas se remettre à bosser tout de suite, c'est ça?
En fait, pour vous donner un exemple extrêmement basique, quand on a passé 5, 6, 7, 8 ans en détention et qu'on n'a jamais ouvert une porte, parce que ce n'est pas nous qui ouvrons nos portes.
C'est des gens ça, qui c'est dingue, j'ai entendu ça, ouais.
Ouais. Et bien, en fait, quand on arrive devant une entreprise ou quelque part, en fait, on n'ose pas l'ouvrir, la porte. Ouais. C'est aussi simple que ça. Quand on parle de déstructuration, c'est qu'on vit plus la nuit que le jour, qu'on attend que le temps passe, que du coup, il n'y a plus de rythme de vie, que les choses nous sont... Voilà, on n'a plus d'autonomie. Et donc, en fait, ça se réapprend petit à petit. Et pour ça, il faut en effet un plan d'adaptation. Pour retourner dans la société.
Une petite question qui va vous paraître sûrement très naïve. Je ne comprends pas, moi, j'étais persuadé, dans ma naïveté, on va dire ça comme ça, que le système pénitentiaire préparerait en fait les détenus à re-rentrer dans la vie active. C'est la naïveté, je me suis un peu planté ou ça ne marche pas?
Non, c'est le cas. C'est le cas. Maintenant, il faudrait que je fasse un peu de temps, vous expliquer un petit peu.
Allez-y, on a le temps.
La personne en détention, elle est, ça arrive, hein, on peut tous aller en détention, hein, ça peut arriver à tout le monde. Néanmoins, la plupart des gens qui sont en détention sont des personnes qui ont des parcours de vie qui sont chaotiques. Ils sont chaotiques depuis qu'ils sont tout petits, des structures familiales qui sont brisées, un lien avec l'école qui est cassé très jeune, et un manque de structure interne et souvent d'amour. Qui les a conduits finalement à commettre des faits qui vont les amener en détention. C'est un peu caricatural.
Oui, je comprends. Si l'enfance cassée...
Mais c'est une réalité depuis Victor Hugo, ça n'a pas changé.
Mais non, mais vous pourriez poser la question à plein de monde, la prison représente la misère sociale de notre pays. Ça, c'est quand même une certitude. Et donc, les personnes, quand elles sortent de détention, elles ont évidemment un suivi régulier avec leur CPI, ou leur conseiller pénitentiaire. Mais ce que je dis souvent à propos de Wake Up Café, on n'a pas de secret, c'est juste qu'on accompagne à plein temps, non-stop, la personne, sans limite dans le temps, avec nous toute la journée, parce qu'en fait, quand on sort de prison, on a besoin d'être soutenu tous les jours, toute la journée, non-stop, jusqu'à réintégrer la société.
Alors vous me parlez de non-stop, comment vous êtes passé donc de la démarche donc de comment dirais-je Clotilde Gilbert du CD enregistré en détention à cette structure où on a justement des permanents qui accompagnent non-stop des gens qui sortent de prison?
Alors oui, ça s'est fait petit à petit. Dans un premier temps, en effet, l'accueil à Wake Up Café s'est fait sur une première péniche qui coulait à moitié avec un salarié et demi. Ça a vraiment commencé tout doucement avec l'accompagnement d'une, puis de deux personnes. Et puis, petit à petit, en fait, Wake Up Café a été repéré, a gagné des appels à projets importants et qui lui ont permis de se structurer. Et donc, la structuration de Wake Up Café a permis de proposer aux sortants de prison un parcours à la fois individuel et collectif, sans limite dans le temps, jusqu'à l'obtention d'un emploi et d'une formation. Et ce parcours, en fait, il répond aux besoins des Wakers, donc il s'est construit petit à petit par rapport à l'expérience qu'a Wake Up Café, puisque depuis 10 ans, on a accompagné plus de 1800 personnes. Et du coup, petit à petit, en voyant quels étaient les besoins globaux, même si chaque personne est unique et que chaque personne a des besoins particuliers, on a quand même conscience qu'il y a un certain nombre de choses à faire, ce qui fait que, en gros, tous les matins, on a un parcours de préparation à l'emploi avec des simulations d'entretien, savoir faire son CV, les codes de l'entreprise, savoir lire sa fiche de paie, gérer son budget, voilà, tout ce qui va permettre de travailler sur la partie emploi. Et puis l'après-midi, on va travailler sur la reconstruction de soi, parce que les deux sont liés et que les deux sont nécessaires. Et du coup, on va travailler l'appui sur le café philo, sur la gestion des émotions, la connaissance de soi, le théâtre, l'éloquence. Tout ce qui va permettre de reprendre confiance en soi, reprendre possession de soi, pour être en capacité de reprendre cette liberté, cette vraie liberté de choisir un nouveau chemin.
Alors, avant de rentrer un peu plus dans les détails, j'ai une question, on va dire, idiote que je vais vous poser. Pourquoi Wake Up Café, en fait, ça vient d'où le nom de cette association? C'est vrai qu'à l'oreille, ça évoque pas forcément le but de l'asso. Enfin, c'est une question comme ça, un peu curieuse.
Non, mais il y a plusieurs explications. Après, l'explication officielle, c'est quand même Wake Up, c'est le réveil.
C'est de
changer de chemin et puis café, parce que Wake Up Café a un côté extrêmement convivial. On vit à travers une communauté d'entraide. Et donc, voilà, quand on parle du café, c'est le moment où on se retrouve à la pause café, c'est le moment où on papote, où on est ensemble.
Wake Up, c'est réveille-toi, tu te bouges un peu et le café, on va t'aider.
Voilà, et puis. Bon, c'est plus fun que l'association de réinsertion des sortants de prison, quoi.
C'est anglais, c'est ça qui gêne Jean-Loup.
Pourquoi en mots
Pourquoi pas réveille-toi café.
Réveille-toi en buvant un café ou... Enfin voilà, petite question. Ouais, pourquoi le mot en anglais si vous connaissez évidemment le pourquoi?
Oui, parce que en fait, quand ça a été pensé, réfléchi par la directrice. Et il y avait tout un sens aussi caché derrière sur le côté wake up qui en effet est quand même un peu plus qui est quand même plus dynamique, on va dire, que réveille-toi.
Ouais, voilà. C'est vrai, réveille-toi c'est long, mais ça c'est le problème, c'est comme pour le rock'n'roll, pourquoi on chante en anglais? Parce que ça passe mieux et puis c'est tout.
En vrai, oui, la langue anglaise est quand même plus faite pour le rock'n'roll, on est d'accord.
Eh ben, ça tombe bien parce qu'on va s'écouter un petit dix de la programmation à Roger, ça sera sûrement du bon vieux rock'n'roll, et puis on rentrera plus dans le détail parce que j'aimerais bien savoir quand même comment ça fonctionne, etc.
C'est pas à vous, Roger, c'est la programmation.
Ah non, je croyais que c'était à vous, moi.
Ou à moi, j'en sais. Allez, on se met un petit disque, à tout de suite.
Ah oui, j'ai inversé, ça sera Jean-Loup après.
Ah ben voilà.
À tout de suite.
À tout de suite.
This time you hurt me, you really did it, this time you did. Did you count your fingers after shaking my hand, God forbid. Riff-raff, crawling from the slums, right there in front of all your chums. I swear by the pricking of my thumb, I'll make your day and melt away. Stand next to me. You won't have to introduce me. You won't have to think about, talk about, care about me. I crawl back. I've got a nerve just showing my face, don't you think? Scoffing at the likes of to know their place, don't you think? Stand.
heart, it's all record you did. You guessed my game and my name like a number you did. Somehow I gave myself away. Some cut, some wood I didn't say. Stand next to me. You won't have to introduce me. You won't have to think about, talk about, care about. You won't have to ask about, fuss about, discuss about. You won't have to mind about, sweat about, forget about me. I crawl back. I crawl back.
En compagnie de Madame Bourguin, au nom de Wake Up Café de Nantes.
Voilà, une association d'insertion à destination des personnes qui sortent de prison. Alors moi, j'ai des chiffres, parce que vous avez un site internet qui est très riche, ma foi, avec plein de couleurs et tout. Et moi, il y a quand même un chiffre qui me fait plaisir, c'est le nombre de wakers, parce que donc c'est devenu une espèce de terme désormais. Quand on rentre dans le Wake Up Café, on devient un waker, c'est ça ?
Tout à fait.
Et donc, le nombre de wakers qui ne retournent pas en prison, ça s'élève à près de 90%, 88% pour être précis. C'est bien quand même.
Oui, oui, alors en plus, on a de la chance parce que c'est un chiffre qui a été calculé auprès du ministère qui s'occupe de la statistique et qui a reçu l'ensemble de nos données pour savoir en effet quel a été le taux de retour en détention. Voilà, c'est vraiment un chiffre officiel qui est rassurant parce qu'il prouve une chose, c'est que la plupart des gens qui sont en détention, elles veulent s'en sortir, elles ne vont pas y retourner. Or, aujourd'hui, la réalité carcérale fait que c'est tellement dur la sortie que 60% d'entre eux récidivent dans les 5 ans. C'est énorme.
Bah oui, c'est-à-dire que... juste le terme général, 70% récidivent, c'est ça que vous dites, hein?
60%.
Ok.
Une question toute bête et toute naïve et toute simple. Est-ce qu'il y a une démarche à faire particulière pour être waker, comme vous dites ? Est-ce que c'est open bar, dans le sens où c'est ouvert à tout le monde ? Ou est-ce qu'il y a une présélection ? Je pense que vous avez des contacts aussi avec le milieu pénitentiaire, parce que faut un petit peu travailler main dans la main, tous les deux, enfin je suppose.
Oui, tout à fait.
J'espère. Et est-ce que c'est eux qui vous conseillent ? Celui-ci, apparemment, il a l'air de vouloir se réinsérer, il a fait une bêtise, mais c'est pas grave, il a payé. Ou est-ce que... Enfin, je sais pas comment ça se passe en fait pour devenir ou pour entrer ou vous rencontrer tout simplement.
Alors nous, on accompagne dedans dehors, ça veut dire qu'on commence à accompagner les personnes en détention. Plus on les connaît en détention et on a créé un lien de confiance avec eux, plus ça fonctionne à la sortie.
Ah ouais, vous faites ça en amont.
Ouais, on fait ça en amont. Plus on fait ça en amont, mieux ça fonctionne.
Mais vous faites ça en amont Vous faites ça en amont par le biais de quelle personne, du coup,
à
quel
titre ? Justement, nous, on a une convention nationale avec l'administration pénitentiaire qui nous permet de pouvoir rencontrer les gens en détention. Et donc, c'est le SPIP et les conseillers pénitentiaires qui font appel à nous quand elles pensent qu'il y a des personnes qu'elles accompagnent qui pourraient intégrer Wake Up Café. Et pour en fait intégrer Wake Up, il n'y a pas 150 critères. Le premier, c'est de vouloir ne plus jamais retourner en détention. Mais néanmoins, quand on rencontre la personne, on doit avoir quand même cette sensation qu'elle veut changer de chemin, que ce qui l'a conduit en détention, c'est derrière elle. Parce que même si on fait notre maximum pour l'accompagner, elle reste moteur de sa réinsertion. Et puis, dans les deux autres critères, c'est accepter de rentrer dans une relation de confiance avec nous. Et ça ne se fait pas automatiquement parce que c'est des personnes qui sont blessées par les relations. Mais en tout cas, on sent que c'est des personnes qui peuvent créer du lien et être en vérité avec nous. Et la troisième, c'est accepter de rentrer dans un collectif parce que Wake Up Café, c'est de l'individuel. Mais on pourra en reparler. On est aussi beaucoup dans le collectif, avec une communauté d'entraide. Et donc, ce doit être des personnes qui acceptent de rentrer dans cette communauté d'entraide. Parce qu'à Wake Up, on reçoit, mais on donne.
Donc, il y a quelque part une présélection, ne serait-ce qu'avec les animateurs ou les éducateurs des centres pénitentiaires. Et vous avez une espèce de contrat moral ou signé, hein, je ne sais pas comment vous fonctionnez avec ces personnes-là.
En fait, non, on a une convention en fait, sur l'ensemble des sites où on est avec le SPIP.
Comment vous dites le SPIP?
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ouais. C'est le SPIP.
Ah, c'est le SPIP. Moi, SPIP, ça, c'est le nom de l'écureuil qui suit Spirou.
Là, on est parti dans une autre dimension.
Non, mais c'est pour ça que. Non, mais SPIP, pour moi, c'est ça.
Et donc, allez-y, continuez.
Mais je disais, du coup, le SPIP, en effet, est situé. Donc, chaque établissement pénitentiaire a des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Et Wake Up Café travaille au service du SPIP. Le SPIP, il travaille à connaître vraiment la personne et ses désirs de réinsertion et comment est-ce qu'elle pourrait s'intégrer ou pas dans la société. Et donc, en fait, c'est vraiment les conseillers qui connaissent les associations sur le territoire et qui va nous orienter la personne par écrit, généralement on a une fiche de liaison, pour que nous proposer d'aller la rencontrer. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une personne en détention ou dehors qui va nous rencontrer et qui nous contacte en direct, on va se mettre en lien avec le CEPIP pour avoir son avis, pour voir si c'est un accompagnement qu'elle trouve cohérent. Et toutes les semaines, on écrit au CEPIP pour le tenir informé des évolutions. Donc en fait, les CEPIP, leur boulot, c'est en effet de travailler à la réinsertion des personnes et au suivi des obligations. Et en fait, ils peuvent s'appuyer sur des structures comme Wake Up Café qui vont justement leur permettre d'avoir un suivi qui est encore plus fort et du coup de faciliter la réinsertion.
Alors, vous parlez aussi d'accepter de rentrer dans un collectif. C'est ça, c'était la troisième condition. C'est quoi ce collectif?
Alors, Wake Up Café, c'est un accompagnement à la fois individuel. Donc, le côté individuel, c'est qu'on va accompagner la personne sur l'ensemble de ses besoins. On a des chargés d'insertion qui vont travailler à la globalité, donc le logement, l'emploi, la santé, l'administratif, bref, tout ce qui est le familial, de comprendre l'ensemble des besoins de la personne et de trouver des solutions pour l'ensemble de ses besoins. Il y a des services d'emploi qui vont l'accompagner sur la recherche d'emploi. Et puis, le collectif, c'est les parcours qu'on propose, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où en fait, ce sont par exemple les parcours de préparation à l'emploi le matin, montés par des mécènes d'entreprise, qui viennent du coup former et accompagner les sortants de prison qui sont en groupe pour travailler à leur réinsertion. Et puis surtout, Wake Up Café, c'est une communauté d'entraide. Donc en fait, on déjeune ensemble tous les jours. On est ensemble dans une maison il faut prendre soin de cette maison, il faut préparer les repas, il faut ranger, il faut participer à ce que ce soit propre. Et donc, il y a un vivre ensemble qui est très important. On se retrouve tous les premiers mercredis de chaque mois pour un wake-up dîner, exceptionnellement par exemple ce soir chez nous. Et donc là, en bas de la maison, j'ai 40 personnes qui sont invitées pour fêter les bonnes nouvelles avec des wakers, des bénévoles, des chefs d'entreprise qui sont tous là pour fêter les bonnes nouvelles. Et donc cette notion de communauté d'entraide et de soutenir les uns les autres, elle est super forte à Wake Up Café.
Alors on parlait de votre partenariat avec l'administration pénitentiaire, mais est-ce que vous avez Wake Up Café, est-ce qu'ils ont d'autres partenaires qui les soutiennent? Parce que je suppose quand même que vous avez combien de permanents, de personnes qui sont payées au niveau national pour faire tourner l'assaut?
En ce moment, alors Wake Up Café ouvre deux sites par an en moyenne, là on a 10 sites en France et on a 60 salariés.
D'accord, donc c'est quand même une grosse asso maintenant.
Maintenant c'est une grosse asso, oui. C'est la 10e année, ça a été créé en 2014, donc 2024 sera les 10 ans de Wake Up Café. On a grossi en effet assez vite et 60 salariés en effet, faut les payer. Et tout ça se fait à 50% par le soutien de public, de subventions publiques, en majorité le ministère du Travail et les SPIP. Qui soutiennent Wake Up Café sur les territoires où on est implanté. Et puis, il y a 50% aussi de soutien qui vient de fondations, donc de privés. Et ça peut être des fondations d'entreprise, des fondations familiales, des dons, qui permettent à l'association, en effet, de continuer de grandir et de pouvoir payer tout ce petit monde.
Est-ce que vous connaissez Dominique Simoneau?
Ça me dit quelque chose. Pourquoi ça me dit quelque chose?
Parce qu'elle est contre le général des lieux de privation de liberté.
Et ah, elle est... voilà, je ne sais pas.
Voilà, et elle écrivait jusqu'à ce qu'elle soit nommée d'ailleurs par le gouvernement, parce qu'on est nommé hein, en tant que contrôleur ou contrôleur général des lieux de privation de liberté. Elle écrivait une chronique terrible, bref de justice, ça s'appelait dans le Canard enchaîné. Où d'un point de vue d'une plume très neutre, elle montrait comment parfois des juges étaient complètement dépassés par la violence du tordu qui va taper sa femme et taper sa femme et taper sa femme, etc. Et parfois, comment la justice pouvait être violente lorsqu'on parle de, vous savez, de comparution immédiate, etc. Et on voit des gamins qui prennent le maximum alors que, ils ont pas eu le temps de défendre leur dossier. Et justement, est-ce que vous avez des liens? Est-ce que votre asso, parce que derrière tout ça, il y a quand même une privation. Si il y a une philosophie, je veux dire, autour de la privation des lieux de liberté. C'est quoi la philosophie un peu des Wake Up Café, du coup, autour de tout ça?
Alors, nous, à Wake Up, on ne fait pas de plaidoyer. On est vraiment dans... Il y a une réalité qui est la prison, qui n'aide pas forcément les personnes à s'en sortir. Parce que la prison... Alors, ce serait intéressant qu'on revienne à la création de la prison.
Allez-y. Ouais.
Oui, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on se disait, d'un point de vue naïf, on dit, la prison, c'est fait pour punir les gens, ou on les met à l'écart de la société parce qu'ils sont violents, puis ils ne peuvent pas se balader parce qu'ils agressent tout le monde, ou alors parce qu'ils volent. C'est quoi l'utilité de la prison, à travers
alors,
tout
la
ça
prison, bon, en soi, des cachots, il y en a toujours eu dans l'histoire, mais c'était un lieu d'attente avant d'aller casser des cailloux à Cayenne, ou en tout cas d'aller au bagne, ou en tout cas de faire des travaux forcés. Mmh. Et en soi, le cachot, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la prison, c'était vraiment une zone transitoire. C'était rare qu'on laisse les gens ad vitam aeternam enfermés. Ce n'est pas l'objectif. Jusqu'à la Révolution, parce que vous le savez, la Révolution française prenait une chose la plus importante, qui était la liberté. Et qu'est-ce qui est la pire punition qu'on peut faire? C'est la privation de liberté. Et c'est à ce moment-là où la prison, et donc la privation de liberté, est devenue une peine en tant que telle. Et donc, la privation de liberté, si vous voulez, ça c'est pas si vieux que ça comme peine en tant que telle.
C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez nous dire? C'est-à-dire que j'ai fait une connerie, on va m'enfermer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, enfin, suivant ce que le juge aura jugé nécessaire, c'est ça?
En fait, oui, le principe au départ de la privation de liberté, c'est un principe punitif.
Voilà.
C'est une personne qu'on met au banc de la société et qu'on enferme.
Mais il n'y a pas de rééducation là-dedans.
Eh bien, si. Alors, sur le principe, quand ça est au XVIIIe siècle, je ne vous dirai pas exactement s'ils avaient déjà pensé à la réinsertion, mais au XXe siècle, ça s'est quand même assez vite développé, et entre autres avec la création du service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui a justement ce rôle-là de penser à l'après et à la réinsertion, puisqu'aujourd'hui, le rôle de la prison, ça n'est pas que punir, mais c'est aussi prévenir et éviter. Le fait est que, c'est ce que je vous disais, les personnes qui sont en détention sont multicarencées sur tellement de choses que, en fait, les besoins d'accompagnement, ils sont extrêmement forts et que le PIB, du coup, s'appuie sur des structures comme Wake Up Café pour répondre à l'ensemble des besoins et essayer d'éviter des retours en détention, parce qu'il y a des personnes qu'on accompagne qui ont fait 10, 15, 20 allers-retours en détention, et en plus, c'est ça qui coûte très cher à la société.
Parce que c'est vrai que si on voit sur 1800 personnes, 88% qui ne sont pas revenus en prison, c'est bien.
Oui, après 1800 personnes aujourd'hui enfermées, il y a 75, à l'instant T, il y a 75, peut-être 76 000 personnes en détention.
Donc, non, je voulais dire 1800, les 1800 personnes que vous avez aidées, je veux dire.
Oui, mais en fait, ça, je pourrais. Voilà, l'idée, c'était de vous dire aussi que 1800, c'est un début, mais l'objectif de Wake Up Café, c'est d'avoir un impact systémique, de changer justement le taux de récidive en France qu'on n'arrive pas à résoudre en s'installant dans un maximum de villes. Pour justement que on n'accompagne pas 1000, pas 2000, mais demain 5000, 6000, 8000 personnes, et que là, du coup, on commence un peu à inverser la tendance de la récidive dans notre pays.
On va s'écouter un petit disque et après j'aurai une ou deux questions, si j'y arrive, parce que Roger est encore plus bavard que moi, c'est pour vous dire.
Et je note des trucs, je note.
Oui, mais moi je réfléchis aux choses, je ne suis pas en train de noter. On va patienter, 2 minutes 30 maximum, et on vous retrouve tout de suite. Merci.
Merci.
Forever!
bien voilà, nous sommes toujours mercredi 10 janvier, nous sommes toujours en compagnie de Wake Up Café et c'est maintenant à Jean-Loup de parler.
Bah, j'ai une question un petit peu personnelle. Comment vous êtes rentré dans cette structure-là, vous, personnellement?
Moi, c'est un hasard total. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Non, mais plus sérieusement parlant, j'ai à l'époque un ami avocat et écrivain qui m'a demandé de monter pour lui une association qui s'appelle Lire pour en sortir et qui est une association qui existe toujours aujourd'hui, qui propose de la lecture en détention. Et moi, j'avais vraiment jamais pensé à la détention. C'est un truc qui m'avait jamais traversé l'esprit. Donc, même au départ, quand tu m'as proposé ça, je me disais, alors, pour lire les personnes en détention, c'est quoi l'objet? Et en fait, j'avais 22, 23 ans, j'étais quand même encore assez jeune. Et puis, il a fallu que j'aille en détention un jour. Et là, je me suis dit, oh là là, la petite blonde qui va arriver en détention, ça va pas être un moment très sympa. Et en fait, je suis arrivée en détention et j'ai eu le droit que à des bonjour madame, merci d'être venue me voir, c'est super ce que vous faites. Vraiment, mais j'avais l'impression d'être attendue comme le messie dans un endroit qui respirait finalement l'attente, la souffrance. Et ça m'a énormément marqué ce besoin d'attention et d'accompagnement des personnes qui sont en détention. J'ai vraiment été bouleversée par mon premier passage en détention. Et donc j'ai fait ça quelques années, puis j'ai fait autre chose et après
Alors là vous touchez une corde sensible, parce qu'avec Jean-Loup et moi on a été sur le site de Wake Up Café et on a fait le tour de toutes les bases de Wake Up Café, et c'est essentiellement féminin. Alors la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que les femmes sont, alors qu'elles sont bien souvent victimes de tas de violences, et on va pas revenir sur les féminicides, etc., c'est une véritable catastrophe, et toutes les violences au quotidien que les femmes subissent, comment ça se fait qu'il semblerait quand même que ce soit des femmes qui soient le plus sensibles à la condition des détenus?
Alors je vais être même encore plus cash que ça, je veux dire que le social, c'est plutôt un truc de nana.
C'est dingue ça. Heureusement que vous êtes là.
Non mais voilà, j'aimerais vous dire que c'est Nix, il y a énormément d'hommes qui s'intéressent au social, bon, on n'y est pas encore.
Heureusement que vous êtes là, parce que vous apportez véritablement du cœur, et on regardait sur tous les sites qu'on va, je rappelle, Wake Up Café, de toute façon il y aura tous les liens qui seront mis sur eux. Je trouvais que c'était assez émouvant de voir des femmes de tous les âges, etc., qui sont là, alors que pourtant, paradoxalement, vous êtes les plus soumises à toutes les agressions, etc., dont la presse fait les échos tous les jours, et pourtant, vous êtes là pour aider les gens qui sont en taule.
Mais les femmes, c'est formidable. Dans les faits, il y a quand même aussi cette... Il y a des garçons à Wake Up et on souhaite en avoir sur chacun de nos sites, parce que c'est intéressant et c'est important aussi d'avoir la dualité sur chaque site. Mais il y a quand même une notion que on est avec des personnes qui sont blessées dans leur amour propre, qui sont blessées dans leur être. C'est majoritairement des hommes, hein, mais nous, on accompagne des femmes aussi. Et en fait, le côté féminin, ça apporte aussi de la chaleur, de l'amour, du cocon, qui est quelque chose dont ils ont besoin.
Et j'ai une autre question à vous poser, parce que malheureusement, l'heure tourne. Enfin, vous m'aviez dit qu'il y aurait un Wake Up Café qui ouvrira Rennes...
prochainement.
Assez rapidement.
Ce que je voulais juste rajouter, c'est que Wake Up Café, c'est vraiment bienveillant, c'est exigeant pour s'en sortir dans la vie. Qu'on soit waker ou qu'on soit n'importe qui, le chemin, c'est rarement un chemin confortable, c'est un chemin qui nous demande de l'effort. Et donc, à Wake Up, on va être assez intransigeant sur l'effort et sur l'exigence. Mais s'il n'y a pas de bienveillance, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de soutien, en fait, on n'y arrive pas. Et ça, j'ai envie de dire, c'est comme avec tout le monde dans la vie. Et après, Nantes a ouvert, du coup, on est le 8e site à avoir ouvert l'année dernière. Et en effet, on est en projet d'ouvrir à Rennes en septembre 2024.
Vous n'hésitez pas à me rappeler, parce qu'elle a mon numéro de téléphone, c'est normal. justement, pour annoncer ça quand ce sera ouvert. Par contre, l'heure tourne.
Il va en tout cas, on vous remercie de nous avoir tenu compagnie.
Mais oui, c'est parfait, 1h30, c'est très sympa.
Et encore une fois,
je sais bien, c'est pour ça que je vous ai dit 3/4 d'heure.
Hein, et encore une fois, on vous remercie aussi pour tout le travail que vous accomplissez à destination des gens que, dont, si on les aide pas, c'est une catastrophe, quoi.
Bah, en tout cas, on n'aide pas la société. Et si on veut apaiser la société, on a chacun un rôle à jouer pour réintégrer les personnes et pour donner une seconde chance. Je voulais peut-être, alors vous me dites si j'ai pas loin, mais je voulais quand même juste prévenir que Wake Up Café à Nantes grossit. On vient de s'installer dans une belle maison et on accompagne de plus en plus de personnes. Et donc, on a aussi une équipe qui grossit. Et on a de la chance d'être soutenu par la Banque Populaire de Grand Ouest, avec laquelle on fait une cagnotte en ce moment. Chaque don est multiplié par 3 et vous bénéficiez d'un outil fiscal. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la Banque Populaire Grand Ouest dans les projets, puisqu'il y a celui de Wake Up Café Nantes. Il est encore à soutenir jusqu'à la fin du mois de janvier.
Yes. Ça, vous allez le transmettre hors antenne à Tom pour qu'il le note comment sur notre blog. Et on vous souhaite, comment dirais-je, bonne route. Et en tout cas, j'espère que vous nous préviendrez quand il y aura un Wake Up Café à Rennes.
Eh bien, avec grand plaisir.
Merci. Merci de je dis merci parce qu'il
on est un peu ému. C'est vrai que c'est des choses qui sont généreuses, c'est que du bonheur et on se dit ça c'est bien, on commence bien l'année chez les Grignoux, mais on est vieux, vous savez. Moi j'avais l'impression qu'on deviendrait mauvais avec Jean-Loup, en fait on est deux vieilles baudruches.
On est gentils comme tout, non?
Absolument, vos questions étaient très pertinentes, donc merci à vous deux.
Merci. Et on vous remercie et à très bientôt. À très bientôt, j'espère.
Au revoir.
Allez, à bientôt, au revoir.
Canal B,
en FM en Ille-et-Vilaine sur le 94
et partout dans le monde sur canalb.fr.